Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Dans la révolution des plantes ». Publié en français chez Albin Michel en 2019, le biologiste italien Stefano Mancuso propose un essai de vulgarisation scientifique et de réflexion écologique. Dans la continuité de ses travaux sur le comportement végétal, il conteste la représentation habituelle des plantes comme organismes passifs, réduits au décor ou aux ressources. Son propos ne consiste pas à leur attribuer un cerveau comparable à celui des animaux, mais à examiner leur capacité de perception, de réponse, de mémoire et de résolution distribuée de problèmes. Mancuso relie ses observations à une question pratique que peut apprendre une civilisation humaine confrontée aux limites énergétiques, alimentaires et climatiques de stratégies végétales élaborées sur une très longue durée évolutive. Le livre associe biologie végétale, critique du regard centré sur les animaux et pistes de bio-inspiration. Il invite ainsi à considérer les végétaux non seulement comme indispensables aux écosystèmes, mais comme des sources concrètes de modèles techniques, sociaux et politiques. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une intelligence végétale conçue sans cerveau central. Le point de départ du livre est une redéfinition prudente de l'intelligence. Chez les animaux, ce mot évoque spontanément un cerveau, des neurones et une prise de décision concentrée dans un organe. Les plantes ne possèdent pas cette organisation. Mancuso soutient néanmoins que leur absence de cerveau central ne prouve pas une absence de capacité cognitive au sens fonctionnel. Elles détectent des variations de lumière, de gravité, de substances chimiques, de contact, de température ou de disponibilité en eau, puis modifient leur croissance et leur physiologie. Leurs réponses résultent de signaux répartis dans de nombreuses parties de leur organisme, notamment les racines et les feuilles. Cette architecture décentralisée est essentielle dans son raisonnement, elle évite qu'une blessure locale compromettent toutes les fonctions vitales. Le livre emploie donc intelligence pour désigner la faculté de recueillir des informations, de les intégrer et de produire une réponse adaptée, plutôt que pour assimiler les plantes à des animaux miniatures. Cette thèse déplace le débat vers la diversité des manières de résoudre des problèmes dans le vivant. Elle explique aussi pourquoi le vocabulaire de neurobiologie végétale reste discuté dans une partie de la communauté scientifique, les analogies avec les systèmes nerveux animaux ont des limites. Mancuso fait de cette controverse un moyen de questionner les définitions trop étroites de la sensibilité et de la cognition. Deuxièmement, la perception diffuse comme stratégie de survie et de résilience, les plantes sont fixées au sol et ne peuvent pas fuir rapidement un prédateur, une sécheresse ou une modification brutale du milieu. Cette contrainte explique, selon Mancuso, la sophistication de leur système de perception et de réponse. Leur corps entier participe à la relation avec le milieu, les racines explorent le sol. Les feuilles régulent les échanges gazeux et les tissus transmettent des signaux chimiques ou électriques. Le livre insiste sur le fait que cette distribution des fonctions forme une stratégie de résilience, là où la concentration des organes peut rendre un animal vulnérable à une atteinte ciblée. La répétition et la plasticité des structures végétales permettent souvent de poursuivre la croissance après une perte partielle. Les racines illustrent particulièrement cette logique. Elles ne se contentent pas de fixer la plante, elles explorent, évitent certains obstacles et orientent leur développement vers des ressources utiles. Ces phénomènes ne supposent pas une intention humaine, mais ils révèlent une capacité de réponse ajustée aux contraintes locales. Pour Mancuso, les plantes offrent ainsi un modèle organisationnel utile privilégier les réseaux, les redondances et les unités capables de fonctionner localement. Cette perspective intéresse la conception de systèmes robustes, car elle déplace la question de la performance maximale vers celle de la continuité du fonctionnement dans des environnements incertains. Troisièmement, le végétal comme laboratoire de solutions bio-inspirées, la révolution des plantes ne se limite pas à défendre une meilleure connaissance des végétaux. Le livre cherche à tirer des conséquences pour les techniques humaines. Mancuso présente les plantes comme des organismes ayant résolu, par évolution, des problèmes majeurs de production d'énergie, de gestion des matières, de captation de ressources et de survie dans des milieux difficiles. Leur autonomie énergétique, fondée sur la photosynthèse, constitue un contraste avec des sociétés dépendantes de ressources finies et de chaînes logistiques fragiles. Leur capacité à croître avec des matériaux disponibles localement et ajuster leur forme aux contraintes nourrit également la réflexion sur les matériaux, les réseaux et les architectures adaptatives. Parmi les pistes évoquées figure le recours à des installations agricoles flottantes, imaginé pour étendre des espaces de culture sans accroître la pression sur les terres. Le livre ne présente pas ces propositions comme des solutions prêtes à appliquer partout. Leur intérêt est plutôt méthodologique, observer une fonction végétale, identifier le principe qui la rend efficace, puis vérifier si ce principe peut être traduit dans un dispositif humain. Cette distinction importe, car imiter une forme naturelle sans comprendre son contexte biologique mène souvent à des simplifications. Mancuso plaide donc pour une bio-inspiration attentive aux interactions entre organismes, milieux et ressources, plutôt que pour une fascination décorative envers la nature. Quatrièmement, sortir du regard zoocentré pour mesurer la place réelle des plantes, un enjeu intellectuel majeur de cet essai est la critique du zoocentrisme. Soit la tendance à prendre les animaux, et surtout les humains, comme modèle implicite de toute vie digne d'attention. Mancuso rappelle que les plantes représentent la part dominante de la biomasse terrestre et qu'elles soutiennent directement ou indirectement les conditions de vie des animaux. Elles produisent une grande partie de la matière organique et de l'oxygène disponible, structurent les habitats et se trouvent à la base de nombreuses chaînes alimentaires. Pourtant, elles sont souvent perçues comme un arrière-plan immobile. Cette invisibilité culturelle facilite une approche purement instrumentale des végétaux, limitée aux catégories de ressources, décors ou matières premières. Le livre ne demande pas seulement de mieux protéger les plantes parce qu'elles sont utiles. Il invite à reconnaître leur altérité biologique et leur rôle systémique. Cette nuance évite deux écueils, les réduire à des objets inertes ou leur prêter sans réserve des émotions humaines. En élargissant le regard, Mancuso propose une écologie où les décisions agricoles, urbaines et industrielles tiennent davantage compte des interdépendances avec le règne végétal. Le changement de perspective est donc autant épistémologique que moral. Comprendre la planète exige de ne plus confondre le vivant avec les seules formes de vie qui nous ressemblent. En dernier lieu, de la science végétale à une révision des choix collectifs. Le terme « révolution » du titre désigne moins un bouleversement soudain de la botanique qu'une modification des priorités humaines. Mancuso met en relation les propriétés des plantes avec les crises contemporaines, dérèglement climatique, raréfaction de certaines ressources, artificialisation des sols et besoin de nourrir des populations croissantes. Les végétaux ne fournissent pas une recette universelle, mais ils obligent à poser autrement les problèmes. Leur fonctionnement repose sur une adaptation continue au milieu, sur la coopération avec de nombreux organismes et sur une forte économie des ressources. Ces principes contrastent avec des modèles centrés sur l'extraction, la centralisation et la recherche de rendement immédiat. Le livre suggère que les innovations pertinentes doivent être évaluées non seulement selon leur efficacité technique, mais aussi selon leur capacité à s'inscrire durablement dans les écosystèmes. Cette orientation donne une portée politique à la vulgarisation scientifique. Mieux connaître les plantes peut influer sur la manière de concevoir les villes, les cultures, la production alimentaire et la gestion des espaces communs. Toutefois, le lecteur doit distinguer l'effet bien établi sur la plasticité et la communication végétale des formulations plus ambitieuses sur intelligence ou conscience, qui suscitent encore débat. Cette tension ne réduit pas la valeur du livre, elle encourage au contraire une lecture critique des mots employés pour décrire des formes de vie radicalement différentes de la nôtre. En conclusion, la révolution des plantes convient aux lecteurs intéressés par la biologie, les enjeux écologiques et la bio-inspiration, sans exiger une formation scientifique préalable. Les personnes qui travaillent sur la ville, le design, les systèmes alimentaires ou les politiques environnementales y trouveront des questions utiles sur la résilience, la décentralisation et la relation entre technique et milieu. Son bénéfice principal est de rendre visible un règne vivant trop souvent réduit à une fonction utilitaire. Il aide aussi à distinguer une adaptation végétale, fondée sur des mécanismes distribués, de nos réflexes centrés sur la mobilité, le contrôle et la concentration des fonctions, par rapport à de nombreux ouvrages de sensibilisation à la nature. Le livre singularise par son passage explicite de la physiologie végétale à des propositions de transformation humaine. Il ne célèbre pas seulement les arbres ou les paysages, il examine ce que les formes de vie végétales peuvent apprendre à nos infrastructures et à nos modes de production. Cette ambition explique son ton parfois provocateur, notamment lorsqu'il mobilise le mot « intelligence ». Une lecture solide gagnera à conserver cette réserve critique et à ne pas transformer les métaphores en équivalence biologique. Dans ce cadre, le livre reste particulièrement stimulant. Il articule des vulgarisations, réflexions sur les biais humains et imagination appliquées, en montrant que le végétal est à la fois une condition matérielle de notre existence et un terrain sérieux pour repenser nos réponses aux crises écologiques. Si vous souhaitez soutenir Stefano Mancuso, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.